RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Bonjour à tous et bienvenue dans Motors. Tous les dimanches, vous le savez, de 13h à 14h, on vous parle de sport mécanique et c'est un vrai plaisir de le faire. Alors, pas de championnat du monde des rallyes ce week-end, ce sera le week-end prochain et ce sera en Corse. Ce sera le rallye de France, on vous en parlera un petit peu plus tard. Pas de championnat du monde de Formule 1 ce week-end, mais ce sera à Bahreïn le week-end qui vient également. Et puis, pas encore de Grand Prix moto, mais on en l'évoquera tout à l'heure. Et on va parler de tout ça avec Lucas Vinois qui est avec moi. Salut Lucas.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Voilà, c'est toujours un plaisir de se retrouver, je vous le disais. Alors, deux petites choses concernant la Formule 1. D'abord, je voudrais vous rappeler que RMC est évidemment le diffuseur officiel du championnat du monde de Formule 1 et que RMC est la radio officielle du Grand Prix de France de Formule 1. On va vous en reparler naturellement. On vous fera gagner des places sur l'antenne régulièrement. Et puis, on mettra en place un dispositif exceptionnel pour ces Grands Prix de France. Exceptionnel, puisque Lucas Vinois, bien sûr, en fera partie. Lucas qui va nous rejoindre régulièrement. Prenons la succession de Louis Hamard. Mais d'abord, on va vous parler de F1 dans Motors. Ça veut dire que c'est le tour de chauffe.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Le voilà, ce tour de chauffe, effectivement, et même un peu plus. Hein. Lucas, on va revenir sur, je le disais, sur cette première épreuve du championnat du monde de Formule 1 qui s'est soldée par une victoire surprise, on peut presque le dire, celle de Sébastien Vettel, qui pourtant, sur le papier, n'était pas, a priori, l'homme le plus rapide, même si Vettel l'avait emporté l'an dernier.
Il n'était pas le plus rapide, ça c'est clair. Hein. De toute façon, Mercedes avait un meilleur rythme, que ce soit normalement avec Bottas, mais Bottas, on le sait, a connu un petit problème en Q3, a craché sa voiture et donc a dû s'élancer depuis le milieu de grille. Mais bon, bah voilà, un coup du sort qui a tourné à l'avantage de Ferrari avec cette virtual safety car. Finalement, Vettel qui s'arrête à un moment de la course où Hamilton ne peut pas le rattraper puisqu'il n'a pas un rythme normal. Et finalement, il reste devant. On sait, c'est compliqué de dépasser sur le circuit de l'Albert Park. Et donc finalement, Hamilton qui a essayé, qui a tout tenté avec une cartographie moteur maximale. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Et donc, il s'est contenté de la deuxième place.
Alors effectivement, on reparlera de ça. On va voir Patrick Tambay hein, dans quelques instants pour qu'il nous fournisse son analyse sur ce Grand Prix d'Australie. Tu le disais, donc effectivement, c'est difficile de dépasser sur l'Albert Park, faut le dire aussi, mais on y reviendra tout à l'heure. Pourtant, on avait sorti une troisième zone de DRS, on parlera de ce sujet également. On pensait peut-être que ça pourrait créer des opportunités et puis des vrais dépassements dans ce Grand Prix. On peut dire qu'on n'en a pas vu beaucoup. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main.
Des doigts d'une main puisqu'il y en a eu cinq. Cinq, ben voilà. un peu moins que l'année dernière. On y reviendra tout à l'heure, comme tu le disais, mais les zones DRS, il ne suffit pas de les multiplier pour multiplier les dépassements. Ça ne sert pas forcément à grand chose. Il faut les utiliser à bon escient. Le circuit d'Albert Park est un circuit particulier où de toute façon, il a toujours été compliqué de dépasser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les appendices aérodynamiques, c'est devenu encore plus compliqué.
Alors, c'est vrai que la réglementation a évolué un petit peu entre 2017 et 2018. Le gros pas, on l'a dit, le gros step, c'était évidemment en 2017, on a essayé de renoder la performance en monoplace. On peut quand même se poser la question de savoir pourquoi, dès qu'on se rapproche de la monoplace qui est devant, et on l'a vu avec Hamilton, on peut même pas dire qu'il ait véritablement tenté une première attaque, hein, mais dès qu'il s'est rapproché véritablement dans les derniers tours pour essayer de reprendre son bien, on l'a vu allumer un pneu et puis c'était terminé.
Ah, il faut être clair, il n'y a pas eu de manœuvre de dépassement de Lewis Hamilton sur Sébastien Vettel, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas pu se rapprocher suffisamment près dans le diffuseur de la Ferrari pour pouvoir esquisser la moindre manœuvre de dépassement. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se rapprocher. Pourquoi ? Parce que les voitures ont énormément d'appui aérodynamique et lorsque vous êtes trop proche, vous glissez. La voiture glisse. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour Lewis Hamilton. À un moment, il était très très proche. Il a essayé de retarder un petit peu son freinage. La voiture a glissé. Voilà, il a perdu 3-4 secondes et c'était terminé.
Et après, effectivement, on fait un plat sur le pneu. On va en parler de tout ça avec Patrick Tambay que j'ai le grand plaisir d'accueillir sur l'antenne de RMC dans ce moteur. Salut Patrick.
Bonjour Jean-Luc et bonjour à ton nouveau consultant.
Hein. Salut Patrick.
Salut.
Alors écoute Patrick, je voulais avoir ton expertise et ton regard sur ce premier Grand Prix d'Australie qui a tenu, on va dire, une partie de ses promesses. C'est toujours un petit peu paradoxal quand effectivement, et tout le monde avait le même sentiment, on a bien vu que Vettel n'explosait pas de joie à l'arrivée, il était content, bien sûr une victoire est une victoire, mais on a bien compris que lui-même avait conscience que c'était pas sur la performance qu'il avait remporté ce premier Grand Prix.
Oui, sur d'autres raisons peut-être aussi, il fallait qu'il fasse comprendre à son écurie que c'était le 21e Grand Prix de la saison, mais dans le sens inverse.
Oui.
Il fallait, avoir pour objectif celui qui sera dans le 20e, donc maintenant. Donc il faut continuer, il va falloir continuer à travailler.
Alors, on se posait des questions, Patrick, après les essais hivernaux, justement, sur le réel niveau des monoplaces, et notamment l'écart. Même si Mercedes n'avait pas fait d'étincelles dans la froidure, on va dire, de Barcelone, on savait bien qu'elle serait là, les Mercedes. Et on l'a vu tout de suite avec cette qualif, ce tour qualif magique d'Hamilton. Alors, le fameux bouton magique, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça suffit à expliquer ce surcroît de performance, près de 7 dixièmes d'avance sur le deuxième, qui en l'occurrence était Raikkonen, hein, ou bien il y a autre chose?
Ça explique la différence qu'il peut y avoir entre un tour qualif et un tour en course. Si tu regardes les chronos, tu te rends compte tout de suite que les pilotes sont encore et de nouveau en train de gérer leur course, gérer les pneumatiques, gérer la consommation. Si il n'y avait pas de radio, et donc depuis les stands jusque vers le pilote, le pilote ne recevrait pas ces informations. Il serait libre à lui-même et peut-être que l'incident de Lewis Hamilton avec la voiture de sécurité ne se serait pas produit.
Bien sûr. Alors ça aussi, Patrick, on peut pointer ça peut-être, c'est le fait que le pilote est totalement dépendant des consignes que lui donne son ingénieur. Hein. Voilà, ce qui a rendu Hamilton finalement très irritable. Après, bon, il a perdu, ça c'est la vie. Terminer deuxième, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est la manière, parce qu'il a dit, si vous m'aviez dit d'aller plus vite, j'aurais creusé un écart plus important.
Ah oui, tu penses. Il faut être à bloc de début à la fin et puis être en mesure de gérer, d'être le pilote qui prend la décision de gérer sa course, gérer ses pneus, gérer la totalité de l'ensemble. Quand on dit qu'il faut revoir les choses en Formule 1, je pense qu'il faudrait commencer par là.
Eh oui, ça c'est clair. Alors Patrick, un mot, on l'évoquait avec Lucas il y a un instant, on y reviendra en fin d'émission. Effectivement, troisième zone de DRS, c'est la première fois en Formule 1. On sait que c'est un peu un artifice hein, pour permettre de dépasser et pourtant ça n'a pas fonctionné.
Le DRS, il faut virer le DRS, c'est tout. Il faut plus de DRS, il faut plus de petits appendices aérodynamiques comme Lucas en parlait. Il faut retrouver des monoplaces pures, sobres dans leur ligne, pas avec des ailerons à 3, 4, 5 plans différents devant. Il faudrait que les fonds plats s'arrêtent à l'axe des roues arrière. Il faut revoir tout le concept aérodynamique de la monoplace. Il faut revenir à des monoplaces qui soient légères et difficiles à conduire. Peut-être, mais sans moins, avec moins d'appui.
Tiens, un mot, Patrick, et tu sais que c'est la démarche qu'a eu l'IndyCar. L'IndyCar a revu totalement son package aéro, et j'en ai beaucoup parlé avec Sébastien Bourdais. Voilà, j'étais avec lui lorsqu'il faisait ses essais, effectivement, à Sebring, avant le début de la saison IndyCar. Il dit, ces monoplaces sont très difficiles à conduire, mais c'est ça qu'on veut. Finalement, toi, en tant que pilote aussi, elles sont difficiles à maîtriser, mais c'est comme ça que le pilote peut faire étalage de son talent.
Oui, mais enfin bon, je suis plus pilote. Bon, alors donc c'est
oui,
je peux simplement demander.
Été, dans la tête,
demander,
tu l'es toujours.
Ouais, bon, d'accord. Mais tu me poses une question sur pourquoi il n'y a pas de dépassement avec ce troisième DRS.
Ouais.
Ben parce que le DRS, il faut le virer, c'est tout.
Ouais.
On n'a plus besoin. Il faut et pour le virer, pour se redonner une capacité de dépasser, il faut que les règlements techniques soient très draconiens. On a plein de solutions à apporter.
Ouais. Impeccable. Patrick, je sais que tu es très occupé le week-end, donc je vais te lâcher et puis on aura Bahreïn hein, le week-end prochain, donc je sais que tu vas regarder ça de très très près, le mot est faible. Merci infiniment, Patrick.
Ok, au revoir.
C'est toujours un plaisir. À bientôt. Voilà, Patrick Tambay, c'est quand même toujours une expertise pointue, c'est le moins qu'on puisse dire, rien ne lui échappe. Alors effectivement, on a ce French corner aussi que l'on aime bien et qu'on va retrouver dans un instant. Lucas, tu as eu l'occasion, je l'ai dit, hein, pour être clair, on l'avait déjà évoqué. Louis est avec nous jusqu'à Monaco, hein, si je ne me trompe pas. Et ensuite, vous allez vous passer la main un petit peu tous les deux à ce moment-là. C'est
exactement,
ça le relais.
Exactement.
Dans les rues monégasques.
Dans les rues monégasques. Entre les rails monégasques. On se passera le témoin.
On passera le témoin. Alors justement, tu as eu l'opportunité de rencontrer les pilotes français. Et là, on va s'intéresser à Esteban Ocon. Alors c'est vrai que cet entretien a été réalisé juste avant le début de la saison. Donc on le sait, Esteban n'a pas brillé. C'est pas de sa faute. Hein. Il a terminé 12e de ce Grand Prix d'Australie. On le replace dans le contexte. En tout cas, on écoute ses arguments, on écoute sa position et on écoute surtout ses ambitions pour cette saison 2018 qui sera la deuxième saison complète pour Esteban Ocon. On rappelle qu'il avait fait ses débuts dans le championnat du monde de Formule 1. C'était au Grand Prix de Spa-Francorchamps et c'était en 2016. Esteban Ocon avec Lucas Vinois.
RMC Motors, le French's Corner.
Bon, Esteban, la saison 2018 est commencée. Quel est ton objectif, tout simplement, pour cet exercice 2018?
Mon objectif, clairement, c'est de garder la quatrième place de la constructeur, de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a dans les mains, avec la voiture qu'on a dans les mains. Et ça, c'est l'objectif pour l'équipe aussi, de se rapprocher du top 3, des meilleures équipes devant. Et ce que je veux, c'est aussi faire un podium à un moment. C'est ce que je chasse depuis l'année dernière, donc on n'était pas loin, il va falloir le réaliser.
Ton coéquipier Sergio Pérez va être là, ça va être une lutte encore farouche. Là, vous avez le droit de vous battre. Est-ce que vous êtes parlé un petit peu pour vous dire bon, on peut se battre en piste, mais quand même on va essayer d'honorer la décision de Force India cette année?
C'est sûr qu'on a le droit de se battre en piste, ça va être une grande bataille encore. Moi, mon objectif, c'est de le battre également. Donc, c'est clair que ça va être serré, mais ce qu'il faut, c'est qu'on se touche pas, qu'on perde pas de points de bêtement pour l'équipe. On sait qu'il y aura beaucoup de monde qui sera vite dans les points, qui pourront marquer des points. On sait que ça va être compliqué le duel avec tout le monde. Donc, c'est à voir, mais il faut qu'on reste solide et qu'on soit quand même une équipe.
Est-ce que tu penses au baquet Mercedes? On sait que si ça se passe pas très bien pour Bottas et que ça se passe très bien pour toi, tu pourrais peut-être prétendre à ce baquet. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire par rapport à ça?
Bon, on verra. Pour l'instant, je suis chez Force India. C'est sûr que ma carrière est managée par Mercedes. Je suis entre de très bonnes mains. Si je fais des bons résultats, c'est sûr qu'il y aura toujours des opportunités.
Toto Wolff a dit que tu étais sa petite pépite.
C'est sympa d'entendre ça du patron. C'est toujours cool.
Sinon, plus au niveau des performances, comment est-ce que tu juges la Force India cette année? Est-ce qu'elle est bien née?
Elle est bien née. Il y a eu un petit peu de boulot à faire au début, surtout. Aujourd'hui, c'est surtout on dégrossit en fait tout le boulot. Il y aura encore des nouvelles pièces qui vont arriver au premier Grand Prix. Donc, ça sera une voiture différente, vraiment à rouler. On espère que on aura la performance, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir.
Est-ce que tu sais à peu près où est-ce que vous vous situez, ou aujourd'hui c'est trop compliqué pour le dire parce que vous connaissez pas forcément les quantités d'essence embarquées, les cartographies moteurs des concurrents?
Ouais, c'est ça. C'est compliqué à savoir à cause de ça, exactement. Mais bon, en long run, en tout cas, on n'était pas très très loin des Red Bull, ce qui était assez encourageant. Donc, on verra ce que ça donne en mode qualif au moment où ça compte.
Tu la sens comment, toi, cette saison, plus personnellement? C'est ta deuxième saison complète chez Force India. Ça s'est quand même très bien passé l'année dernière.
Ça s'est très bien passé l'année dernière. Je me sens bien, prêt physiquement, de retravailler avec les mêmes personnes. C'est vraiment agréable. Ça m'est arrivé que c'est la deuxième fois dans ma carrière que ça m'arrive. Donc, de retravailler tout l'hiver avec les mêmes personnes, de continuer le travail qu'on a effectué l'année d'avant, c'est vraiment agréable. Donc, je suis vraiment confiant pour cette année.
Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Podium et en France si possible.
Merci Esteban.
Merci.
Voilà pour cet entretien donc de Lucas avec Esteban Ocon. Alors on rappelle, je le disais en préambule, qu'Esteban Ocon malheureusement n'a pu terminer que 12e de ce Grand Prix, juste derrière son équipier Sergio Pérez. Et effectivement, on avait apporté un nouveau package aéro lors de ce premier Grand Prix en Australie. C'est vrai qu'il y a encore du boulot, il le disait lui-même. Et c'est vrai, une nouvelle fois, c'est la démonstration que les essais hivernaux finalement n'apportent que des informations qui sont, on va dire, fragmentaires. Alors je voulais vous rappeler, je vous l'ai déjà dit dans le cadre du premier Grand Prix, mais c'est important de le souligner, qu'il y a le magazine Handicap Zéro. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter, évidemment, sur AMC, si vous êtes aveugle ou malvoyant. C'est un magazine sur cette saison 2018. Il faut souligner que Renault Sport et notre confrère Jean-Louis Moncey ont participé. Vous avez notamment un entretien avec Cyril Abitboul. Enfin, il y a un sujet sur McLaren Renault. Il y a tous les détails sur la saison 2018. C'est en braille, en caractère agrandi ou en audio. Et donc, vous pouvez aller commander ça sur handicapzero.org, comme ça se prononce, handicapzero.org. Voilà, j'ai toujours plaisir chaque année à souligner cette initiative qui est extrêmement intéressante. Allez, on rebondit sur les pilotes français, Lucas, avec évidemment un peu de déception, je le disais, puisque le mieux placé, c'est Esteban Ocon, qui nous a habitués à terminer dans les points la saison dernière. L'équipe Force India Mercedes, il faut le rappeler, parce qu'elle est quand même extrêmement fortement motorisée, cette équipe était la quatrième du plateau, incontournable. incontestablement. Là, on a l'impression qu'ils démarrent un petit peu sur la jambe arrière, voilà.
Et ils sont un peu plus loin hein, sur l'échiquier pour l'instant. Alors, on va pas tirer de conclusions hâtives parce qu'on est encore tôt dans la saison. Ils se sont plutôt bien comportés, notamment dans les longs runs, comme le disait Esteban lors des essais en Catalogne sur le circuit de Barcelone. Voilà, pour l'instant, ça n'a pas marché en Australie. C'est le moins qu'on puisse dire parce que même si Ocon termine 12e, son coéquipier ne termine qu'une place devant lui. Donc, ça montre que la performance globale de l'équipe n'est pas terrible ou voilà moins bonne que ce qu'ils étaient capables de faire l'année dernière. Mais je voudrais aussi préciser que l'Albert Park, ça reste un circuit particulier.
Oui, c'est
un circuit urbain qui est très atypique, où il est difficile de trouver de l'appui. Donc bon, on verra sur un circuit plus classique à Bahreïn. Voilà, on aura quelques plus d'éléments de réponse.
Pour le moins. Puis après, on aura Shanghai, qui est encore autre chose, effectivement, qui est un circuit beaucoup plus classique. Pour rester effectivement avec les Français, on va parler évidemment de la performance derrière de Romain Grosjean, parce que Romain Grosjean, il était très bien parti. Alors là, à l'inverse, on a compris que les performances de la Haas à moteur Ferrari étaient étonnantes, presque trop, parce que effectivement, ça y est, ça suscite la polémique dans le paddock. On se dit, oui, bah c'est une Ferrari 2017 qui a été repeinte aux couleurs Haas. En gros, alors c'est vrai que l'implication de Ferrari, on rappelle que c'est le groupe propulseur actuel, hein, c'est bien le 2018 dont bénéficie Haas, et ça aussi c'est important.
Boîte de vitesse, moteur et suspension arrière qui sont les mêmes que Ferrari. Alors Haas, on parlait du circuit particulier, mais Haas s'est toujours bien comporté en Australie. C'est une des rares équipes qui parvient à être régulière sur ce tracé. C'était très bien parti, que ce soit pour Grosjean et pour Magnussen qui était quatrième et cinquième.
Juste devant,
malheureusement, il y a eu ces problèmes au stand de.
Ah, ça fait
de
pas très sérieux, même j'ose le dire, hein, parce que on se dit, attends, ils sont pas capables de changer de roue sur les bonnes places. Il y avait un truc à pas louper, ils l'ont loupé. Il y a peut-être des raisons techniques. On va pas se moquer gratuitement. C'est vrai que c'est lourd, quoi. En plus, ça pénalise lourdement l'écurie en début de saison.
C'était 22 points de perdu. Si l'écurie avait placé ses monoplaces en quatrième et cinquième place, c'était 22 points, quasiment le total de Haas l'année dernière au classement constructeur. Donc, on comprend pourquoi Günther Steiner était fou sur le muret des stands, s'est pris la tête à deux mains. Bon, voilà. Si Haas est vraiment bien en termes de performance, ils auront l'occasion de nouveau de marquer de gros points. Mais il faut espérer qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance.
Voilà, et ça, on le saura aussi à Bahreïn, on l'a dit, à Shanghai. Hein. Il faudra attendre 3 ou 4 Grands Prix. Et puis moi, je dis toujours plus tôt, même le début de la saison européenne, hein, qui sera à Barcelone le 13 mai. Là, il y aura également des nouvelles monoplaces. Il y aura beaucoup d'améliorations. Un mot sur Pierre Gasly. Alors Pierre Gasly, pareil, il était loin. Hein. Il s'est arrêté au 15e tour avec un problème de moteur. Alors lui a déclaré aussi depuis, mais Honda travaille énormément. Il y a des évolutions terribles. Vous n'avez pas vu encore le vrai moteur Honda.
Pierre Gasly, on l'a rencontré à l'occasion des essais de Barcelone. Il était plutôt confiant, justement, par rapport au travail du motoriste japonais. Bon, ça n'a pas fonctionné ici en Australie. Bon, il faut pas non plus s'affoler pour Toro Rosso et ce moteur Honda qui a plus de place que dans la McLaren. Hein. Donc normalement, le motoriste japonais devrait mieux s'exprimer à l'intérieur de la Toro Rosso. Voilà, ça a été un Grand Prix complètement raté. Il faut attendre pareil un petit peu plus loin, et notamment Barcelone, où là, on verra vraiment le potentiel total de l'ensemble des monoplaces.
On précise que Brian Hartley, son équipier néo-zélandais, termine 15e à plus d'un tour. Quand on sait qu'il y a eu une neutralisation, effectivement, à mi-course, c'est vrai que c'est pas terrible en termes de performance. Et puis, j'allais dire le quatrième français, Charles Leclerc. On sait, il est sous pavillon monégasque, mais comme je le disais tout à l'heure, en championnat de France de football, eh bien, on dit que la bataille a lieu entre le PSG et Monaco, qui sont les deux meilleurs clubs français. Moi, je vois pas pourquoi je dirais pas que Charles Leclerc est un pilote français. Francophone, en tout cas. Allez,
ouais,
on va le dire. Bon, il a terminé son Grand Prix, ça c'était important chez Sauber.
Ouais, lui il se dit monégasque, attention.
Ouais, bon. Mais on respecte son choix.
Donc, non, pour lui ça s'est très très bien passé. Ouais. C'est son premier Grand Prix, il parvient à aller au bout, c'était l'objectif. Sauber parvient à trouver de la fiabilité, c'était aussi un des objectifs de Fred Vasseur et de l'ensemble de son team. 13e pour un premier Grand Prix en Formule 1 avec quasiment aucune faute, que ce soit pendant les essais, pendant les qualifications ou encore pendant la course. Ça commence très bien pour Charles Leclerc qui de toute façon va continuer tout au long de la saison son apprentissage en Formule 1.
Alors, ce qu'on attend de lui quand même, et ça n'a pas été le cas aux essais, c'est qu'il domine son équipier, évidemment Ericsson, parce qu'on le sait, le meilleur adversaire, bah, c'est comme pour Esteban Ocon, c'est Perez, lui, il va falloir qu'il domine Ericsson. Bon, on va lui laisser aller 3 Grands Prix quand même à Charles.
Oui, il sera jugé là-dessus, c'est évident. Bon, j'avoue que j'ai pas trop d'inquiétude pour lui.
Moi non plus.
Il va être capable de dominer Marcus Ericsson. Voilà, il prend ses marques. comme on l'a dit, c'est un circuit particulier, c'est son premier Grand Prix en Formule 1. Marcus Ericsson, c'est sa cinquième saison hein, quand même. Alors on a on critique souvent sur son pilotage en disant qu'il est pas assez rapide, mais bon, il a quand même de l'expérience.
Il faut jamais négliger et mépriser son adversaire, au contraire.
Oui, et puis l'expérience en Formule 1 est très très importante. Donc voilà, laissons le temps à Charles Leclerc, il va réussir à dominer son coéquipier cette saison.
C'est clair. Merci beaucoup Lucas, je te retrouve tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission pour Radio Paddock. On a quelques sujets à débattre tout à l'heure. Vous êtes dans Motors, il est 13h24, vous êtes bien sûr RMC, la radio de la Formule 1 et la radio des sports mécaniques. Vous restez avec moi dans un instant, on va parler moto.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Et oui, vous êtes bien dans RMC, non seulement sur RMC, mais dans Motors pour vous parler de sport mécanique après la Formule 1. C'est la moto et c'est le briefing.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite 120.
Le briefing.
Et oui, le briefing, effectivement. Et le briefing, eh bien, on va le mener avec l'organisateur du Grand Prix de France Moto qui va se dérouler au Mans. Ce sera les 18, 19 et 20 mai prochains. Et c'est évidemment avec Monsieur Claude Michy. Salut, Claude.
Bonjour, mon cher Jean-Luc.
Eh bien, c'est toujours un plaisir de t'accueillir sur cette belle antenne, d'autant que nous sommes partenaires pour ce Grand Prix de France Moto qui s'annonce sous haute tension. Le mot est faible. Si tu veux bien, Claude, on va d'abord revenir un tout petit peu sur le Qatar avec la victoire d'Andrea Dovizioso de la Ducati qui a bien mené sa barque. Hein. Il est resté un petit peu caché dans les premiers tours, Dovi, et puis on va dire qu'il est sorti au bon moment.
Oui, mais il y avait un beau paquet d'huit là qui était magnifique. Bon, Johan Zarco a amené cette troupe pendant 15 tours. Et on pensait bien qu'il allait aller au bout. Mais bon, ça n'a pas voulu. Quelques petits soucis peut-être devant, sur l'avant. Et derrière, Valentino était toujours là aussi. Hein, donc, beau tiercé, hein, Dovi, Marquez, Rossi, c'est quand même pas mal pour un premier.
Ah bah oui, ça fait un paquet de titres de champion du monde, effectivement, déjà du côté de Marquez et de Rossi. Alors, chaque année, on se repose la question, on se dit quand même, à 39 ans, est-ce qu'il va toujours envoyer du bois? Eh bah oui, il est toujours là, Valentino.
Oui, il est peut-être un peu moins vif sur la partie qualification, parce que c'est pas vraiment son truc. On voit qu'il y a tout. Mais peu importe qu'il part 5, 6, 8, 10, il est toujours là. Et je pense qu'il va être là... encore toute la saison, il a signé 2 ans, donc c'est quand même assez étonnant. Mais voilà, il est. Donc mais c'est bien, comme a dit Johan Zarco, c'est bien pour le spectacle, ça valorise aussi les autres pilotes, parce que quand on bien est dans aussi, on est valorisé, quoi. C'est exactement le sujet aussi. Et donc à partir de ce moment-là, tout va pour le mieux, hein. Le spectacle est magnifique.
Ah ben le sujet, c'est de le battre et de le dominer, comme tu l'as rappelé, un départ en fanfare pour Johan Zarco. On va l'écouter hein, tout à l'heure, parce qu'effectivement, il était dans le super Moscato Show il y a quelques jours. Alors, Johan, effectivement, il est toujours très mesuré dans ses propos, malgré sa pole, malgré ses très bons essais hivernaux. On a l'impression qu'il n'ose pas se lâcher, quoi, en disant, enfin, la première victoire, évidemment, il va aller la chercher, il a l'ambition de le faire, mais on a l'impression qu'il fait attention à ce qu'il dit.
Ah. Oui, j'attendais de savoir ce qu'allait dire Johan Zarco.
Mais ah si non, tu... non, non, on va l'écouter après. Tu vas voir, c'est un entretien.
Non, non,
oui,
non.
Oui.
Non, mais je pense que Johan Zarco est totalement épanoui. Bon, j'ai la chance de le croiser, on s'est vu encore pour la conférence de presse et donc on a échangé. L'homme est épanoui. Donc, oui. On peut s'attendre qu'à des choses fantastiques. Alors, des fois, l'être humain s'épanouit assez jeune, d'autres un peu moins, etc. Et là, je pense qu'il a conscience qu'il est avec les meilleurs et qu'il peut être le meilleur. Après, c'est quand même une moto satellite, n'oublions pas. Mais malgré ça, mentalement, physiquement, psychologiquement, il n'y a pas de jeu nulle part. Hein.
Oui. Alors j'allais t'en parler de ça. Bon, début de course, on y revient quand même un petit peu parce que il maîtrise sa course. Les autres sont derrière, comme tu le dis, 8 pilotes en paquet, ce qui est exceptionnel. Il n'y a que la moto hein, pour offrir ça avec des multiples dépassements à chaque tour. C'est quand même formidable. Il y a du monde avec toi là. Hein. T'es pas tout seul, Claude.
Non, non, mais je suis au stade.
Eh ben oui.
Au stade avant le match FM Racing. Donc il y en a quelques-uns qui arrivent, qui font un peu de bruit, j'en suis navré.
Non, mais je t'en prie. On pourra le suivre sur RMC aussi ce match, hein, je te rassure. Voilà. Donc on parle de Johann Zarco, début de course en fanfare, c'est même 17 tours qu'il a mené sur les 22. Hein. Et puis après, il a eu un problème de... On savait pas d'où ça venait, mais intelligemment, il est resté sur ses roues. Ça aussi, c'est une qualité formidable. L'an dernier, déjà, il mène 5 tours et puis il se met par terre. Bon, ça, c'est la fougue de la jeunesse, on va dire. Il a appris beaucoup, Johann?
Oui, mais quand je te disais que cette notion d'épanouissement, ça se traduit par de la réflexion, même dans les moments certainement les plus chauds, comme ce qui s'est passé au Qatar, avec un petit souci. Ça a joué sur 5-6 dixièmes au tour, mais c'est quand même énorme quand on est. Il y a 8 garçons qui sont ensemble. Et puis c'est arrivé au moment même où il avait le plus d'écart qu'il avait réussi à faire, sur notamment Dovizioso, qui n'était plus dans l'aspiration. Donc ça laisse prévoir et imaginer des très belles choses dans les prochaines courses.
Ah ben c'est un euphémisme, puisqu'effectivement, cette première victoire en MotoGP, on l'attend. On sait que lui, en Moto2, il a effectivement tout emporté. Il avait même remis sa carrière en jeu en remportant un deuxième titre de champion du monde consécutif. Mais on va l'écouter. Tiens, Claude, tu l'attendais tout à l'heure. Ça va être maintenant. C'était dans le super Moscato Show avec Vincent, avec Pierre Dorian, avec Eric Dimeco, avec toute la bande. Écoutez, Johann Zarco.
RMC.
Pole position, record du tour le samedi et dimanche une course où j'arrive quand même à mener longtemps, mais avec un petit doute parce que ce pneu avant, je sentais pas très très bien, il commençait à glisser. Et je me suis dit tant que t'es en tête, continue et tu verras qu'est-ce qui se passe. Et finalement, quand les autres m'ont attaqué à 5 tours de la fin, j'ai vu que je pouvais plus suivre et il a fallu que je rétrograde jusqu'à la 8e place. Donc c'est mieux que rien, ça met les boules, mais que de la rage pour aller gagner en Argentine. À la fin, on a analysé, on a dit, mais alors si j'avais pas eu ce problème de pneu, le coup, je partais. Parce que j'ai dit, pourquoi ils m'attaquent pas? Donc s'ils m'attaquent pas et que personne me double, bon, eux aussi peut-être assurent, mais c'est que le rythme est quand même déjà pas mal. On sent quand même que maintenant, je suis dans les plans des pilotes qui jouent les super places, quoi, les victoires. Et maintenant, je commence à être dans leur plan. Ok, ouais. Zarco, lui, il peut attaquer la course comme ça. S'il me suit, il peut me dépasser comme ça. Je suis plus exclu des stratégies de course, on va dire. Enfin, c'est tellement bon la victoire et on donne tellement tout sur chaque course. Si ça se fait que au Grand Prix de France, c'est sûr, on crache pas dessus. Mais franchement, je souhaite que ça puisse se faire avant et rebelote au Grand Prix de France.
Ah ben, dis donc, il l'a dit, hein, Claude. Ça, comme tu dis, tu lui parles très souvent, évidemment, vous connaissez très très bien. Et son ambition, elle est très claire, hein. Alors, on va rappeler effectivement. Oui.
Mais on peut penser que. Tu sais, il y a des déclics une fois qu'il aura gagné une fois. Je pense que derrière, c'est la première et la plus difficile, je pense.
C'est clair, c'est clair. Alors là, le championnat du monde part au fin fond de l'Argentine, hein, on peut le dire.
Oui, oui.
Le circuit de Termas de Rio Hondo, tu fais un saut là-bas?
Non, je dirais que Jerez.
Ah, Jerez, d'accord. L'ouverture de la saison européenne, on va dire, hein, parce qu'après il y aura eu Austin, voilà, aux États-Unis le 22 avril, et puis le 6 mai l'Espagne, juste avant la France, on le rappelle, le 20 mai. Alors, Claude, je sais même pas si je peux inciter tous les auditeurs d'RMC, parce que toutes tes tribunes sont pleines, c'est ça, mais il y a encore de la place quand même.
Oui, non, il y a encore de la place dans les enceintes générales. Effectivement, nos ventes sont à la hauteur de l'événement, hein, de l'intérêt qu'il y a. Et puis, tu sais, on essaye de vraiment faciliter les meilleures conditions pour tout le public. Il y a 13 écrans géants. Les gens peuvent suivre la course dans les meilleures conditions. Il y a les baladeurs, ils ont une sono top dans les oreilles. Et puis, cette année, du fait que, en plus, c'est notre 25e Grand Prix, on a organisé un jeu pour un spectateur qui partira avec une Ducati Monster, avec l'équipement, les gants, la combinaison, les stages de pilotage. On essaye de s'occuper de nos spectateurs. Je pense que c'est important de considérer le public et d'essayer de l'accueillir dans les meilleures conditions.
Bah écoute, c'est même absolument primordial et on sait que en Formule 1, pour en reparler, on en a déjà parlé souvent ensemble, off et à l'antenne, on sait qu'effectivement on commence enfin à s'occuper un petit peu des spectateurs, c'est pas plus mal. C'est comme ça que tu arrives à faire venir plus de 100 000 personnes, hein, largement sur les 3 jours. Rappelle-moi le record de l'an dernier, Claude.
Ah ben, le dimanche, il y avait 105 000 et 210, je crois, sur les 3 jours. Mais ce qui est important, c'est qu'on est devenu la deuxième affluence mondiale. Et je pense qu'après 24 années, c'est un long travail. mais ça récompense toutes les équipes, ça récompense surtout les pilotes et les organisateurs du championnat du monde et la fédération qui ont réussi à mettre en place, je dirais, un spectacle sportif qui tient toutes ses promesses, parce que je pense que la notion d'organisation de la réglementation sont bien différentes de ce qui a été fait en Formule 1. Et c'est pour ça que le spectacle est dans la moto et beaucoup moins dans la Formule.
Ben, tu sais, sans arrêt, ça revient sur le tapis, sans même le susciter. Je discute, moi, beaucoup, évidemment, avec tous les pilotes, les anciens pilotes et tout le monde de la Formule 1. Et tout le monde regarde les Grands Prix moto. Pour rien au monde, on ne raterait les Grands Prix moto. Je crois que c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre, hein. Parce qu'effectivement, on sait que tout peut arriver jusqu'au bout. Et on l'a vu encore lors de ce premier Grand Prix. Par parenthèse, toi, t'as pas l'intention de passer à des Grands Prix nocturnes en France, hein. On va rester deux jours au moins.
Non, mais on a pas... C'est un peu cher d'éclairer quand même.
Ouais, puis c'est plus sympa de jour quand même. C'est beaucoup plus sympa. Il y a pas de problème. Claude, on parlait de Johann Zarco. On va y revenir si tu veux bien pour la carte pratiquement totale qui s'ouvre à lui, parce que tu le disais, il est dans une équipe satellite, un Tech 3 qui va d'ailleurs quitter Yamaha pour aller, on le sait maintenant, Hervé Panchara l'a dit, chez KTM, exactement. Alors il y a du boulot hein, quand même, parce que ça part un peu de loin, mais tu me diras, c'est comme ça qu'on verra effectivement si tout le potentiel de Tech 3 peut s'exprimer correctement. Alors la question c'est, avec ou sans Johann Zarco, dont on sait qu'il a des contacts, en tout cas ça a fuité, avec Honda, avec Yamaha qui serait prêt à lui mettre une troisième moto officielle, mais aussi probablement avec Ducati, hein, et pourquoi pas Suzuki.
Moi je vais être très honnête, ouais. J'ai posé aucune question à ce sujet, ni à lui, ni à Laurent Pelon. Mm-hmm. Je pense que
son manager,
c'est eux qui décideront, il faut les laisser faire, ils sont rarement trompés sur les choix qu'il y a à faire. Ils ne sont pas trompés de rester en moto 2, ils ne sont pas trompés d'aller chez Tech 3. Donc, je crois que il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte, et quand on est extérieur au sujet, il faut avoir la décence de pas donner son avis, parce que on n'a pas ni la compétence, ni les connaissances, ni les éléments pour dire ceci ou cela. Je reste très 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 discret là-dessus.
Tu as parfaitement raison, évidemment. On va dire que la difficulté peut-être pour Tech 3, hein, surtout à moins que les performances de la KTM s'améliorent, ce serait de conserver, on va y aller doucement, un potentiel vainqueur de Grand Prix, pour ne pas dire autre chose, dans son giron. Parce que c'est vrai que pour le moment, on verra ce que ça donnera en 2019, mais peut-être la KTM n'est pas tout à fait en mesure de permettre à un pilote, on va dire, d'être champion du monde.
Oui, mais d'un autre côté, partout où a été KTM, partout ils ont gagné.
C'est vrai.
Donc, à quelle échéance, ça c'est un autre sujet. Mm-hmm. Mais effectivement, il faut attendre un peu. Il n'y a eu qu'une course pour le moment. Il faut laisser faire les choses et voir où ça en sera dans 4-5 courses.
Claude, tu parlais de déclic. Est-ce qu'on peut dire que Andrea Dovizioso l'a eu, ce déclic, et l'an dernier, lui qui est un type extrêmement sympa, au-delà de son talent de pilote chez Ducati, puis toujours un pilote italien au sein d'une équipe italienne, c'est toujours délicat, ça l'est en Formule 1, ça l'est aussi évidemment en matière de moto. Est-ce que lui ne l'a pas eu, le déclic? Est-ce que les autres et lui-même ne se considèrent pas maintenant comme un potentiel champion du monde face à Marquez, tu le rappelais, et à Rossi?
Ah ben, tous les progrès de Café du Ducati depuis l'arrivée de Lanier qui a pris la direction de Ducati sont devenus quand même très 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 performants. Dovizioso lui aussi s'est épanoui. Alors j'ai lu un article qu'il a un gourou italien qui s'occupe d'un certain nombre de sportifs qui lui a permis peut-être de se recentrer sur lui-même. L'article était très intéressant, c'était dans Sportbike d'ailleurs, très intéressant de se recentrer sur lui-même, de faire état de la situation, de son approche de la compétition, même avec l'âge qu'il avait. Et je dirais que l'osmose entre la machine, l'homme et son évolution mentale font que il est là, quoi.
Eh ben c'est clair, même s'il a passé la trentaine, 31 si je me rappelle bien pour Dovi, mais bon, c'est un gamin par
il
rapport.
Il est jeune.
Ben, c'est ce que j'allais dire par rapport à Rossi, qui va être normalement, qui va passer les 40 ans si tout va bien en Grand Prix, hein, c'est absolument incroyable. Alors un mot d'un garçon, puis après on va parler d'un autre événement dont tu t'occupes et qui je sais te tient très à cœur. On va parler de Jorge Lorenzo. Ah, lui, c'est un petit peu de Caraïbe dans Silla. À l'inverse, on a l'impression qu'il n'arrive pas à exprimer son talent, qui est réel. Évidemment, on n'a pas été multiple champion du monde au guidon de cette Ducati.
Oui, écoute, c'est un champion du monde, hein, donc ouais. Il n'a pas été par hasard, c'est un très grand pilote, c'est un garçon charmant en plus. Bon, je pense que la notion de l'extrême compétitivité de nombreux pilotes, hein, il y a des pilotes qui peuvent gagner un grand prix aujourd'hui.
Crutchlow et Petrucci, on les oublie pas.
Voilà. Bon, donc je pense, et ça joue à rien. Donc ça veut dire que l'état dans lequel est le pilote, et donc il doit être en osmose avec sa machine et ses techniciens, ça prend peut-être plus de temps que prévu, et que le doute qui s'est installé l'année dernière avec le changement d'écurie n'est pas totalement résorbé, quoi. Hein.
C'est clair,
donc
c'est
ça
clair.
Existe encore, je pense.
C'est clair. On rappelle Claude Michy, donc l'organisateur du Grand Prix de France au Mans. Grand Prix de France moto, bien sûr, les 18, 19 et 20 mai. Et vous savez que ce sera un mois plus tard pour la F1 sur le circuit Paul Ricard. On a écouté Gilles Dufaigneux en direct dans cette émission. Alors Claude, tu travailles sur un autre événement qui te tient à cœur, puisqu'évidemment, tu le revendiques et tu es plus que jamais auvergnat et plus que jamais de Clermont-Ferrand. Et il y a un très très beau circuit à côté de Clermont qui s'appelle Charade. Raconte-nous cet événement qui va être unique au mois de septembre.
Oui, c'est les 60 ans du circuit de Charade. Et on nous a demandé d'imaginer ce qui pouvait être fait à cette occasion. Donc on a créé quelque chose, on a créé quelque chose d'assez important qui durera sur une semaine entre différentes expositions en ville et du roulage sur le circuit le samedi et le dimanche 22-23 septembre. Alors on va rendre hommage aussi à tous nos champions auvergnats, Patrick Despaillés, Guy Ligier, les Sarrons, Jean-Louis Tournat pour la moto, qui est champion du monde en 250. Ouais. Et on va avoir une très belle partition d'un certain nombre d'Anglais, avec de très belles voitures. Giacomo Agostini sera là pour la moto. Donc, je pense qu'on va arriver à faire un bel hommage à ceux qui ont créé ce circuit, et Louis Rosier qui avait gagné les 24 heures du Mans avec son fils en conduisant pendant 23 heures sur la Talbot. On va avoir des machines fantastiques. On va essayer de rassembler le maximum de pilotes parce que ils ont tous roulé à Charade, hein. Alain Prost, Yannick Delmas, Jacques Lafitte, Christian Etuin. Et c'est un autre siècle, mais ces gens se voient pas souvent, sont peut-être perdus de vue. Donc on va essayer de rassembler tous ces gens-là pour qu'ils se rencontrent et que tout le monde passe un bon moment.
Eh ben écoute, ça va être génial. Je rappelle les 22, 23 septembre et même la semaine, hein, tu disais, il y aura des animations toute la semaine sur ce tracé de Charade. Génial. Merci beaucoup Claude Michy, organisateur du Grand Prix de France Moto. À bientôt Claude. Vous savez que RMC bien sûr est partenaire donc du Grand Prix de France Moto, je le disais, au Mans 18, 19, 20 mai, partenaire évidemment du Grand Prix de France de Formule 1, c'est la radio officielle du Grand Prix de France de Formule 1 qui se déroulera sur le circuit Paul Ricard le dernier week-end de juin. Vous êtes dans Motors, vous êtes sur RMC, on va aborder la troisième ligne droite, ça va être Radio Paddock, vous restez avec nous naturellement.
RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Et oui, et ça envoie du lourd dans Motors tous les dimanches entre 13h et 14h. Puisqu'effectivement, c'est peut-être pas tout à fait écolo, mais bon, c'est pas grave. On aborde maintenant la troisième partie de l'émission et c'est Radio Paddock.
RMC Motors. Radio Paddock.
Et c'est le bel organe de Lewis Hamilton qu'on entendait il y a un instant avec un titre de champion du monde et une victoire, enfin quatre titres même de champion du monde. Et c'est le sémillant Lucas Vinoy. Sémillant, ça te va?
Ça va parfaitement.
Que l'on va retrouver pour ce Radio Paddock. Alors quelques sujets sur la table.
Comme on disait tout à l'heure en début d'émission, on va parler de DRS, hein, ce système d'aileron arrière mobile qui permet normalement, je dis bien normalement, de favoriser les dépassements. En Australie, on le disait, on a assisté seulement à 5 manœuvres de la sorte. C'est un dépassement de moins, hein, que l'année dernière, alors qu'il y avait 3 zones, une de plus dédiée pour le DRS. C'est quand même un problème de pas pouvoir dépasser à cause de cet aileron arrière mobile qui a fait son apparition, on le rappelle, en 2011.
Oui, je vais pas avoir la langue de bois, on l'a jamais sur RMC, puis tu sais, je l'ai encore moins. Donc on se lâche. Patrick Tombé l'a dit tout à l'heure, la majorité, alors les pilotes en exercice, eux, paradoxalement, sont pour. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que sans cet artifice aérodynamique, comme tu viens de le dire, en fait, ça consiste à effacer une partie de l'aileron arrière, donc à garder de la vitesse de pointe, ou plutôt à en gagner dans le sillage de la monoplace qui te précède. De gagner, ça dépend des circuits évidemment et de la longueur, mais de l'ordre de 12 à 15 km heure, qui permet d'effectuer un dépassement. Maintenant, est-ce que ce dépassement, j'allais dire, est logique et légitime? On va me dire oui, parce que il faut arriver dans la bulle à moins d'une seconde de la voiture qui te précède, au moment où il y a la détection, juste avant. Alors, c'est tout ça, c'est toujours un peu compliqué à expliquer à des gens qui ne suivent pas le sport automobile et la Formule 1 régulièrement. Bon, voilà les règles en tout cas. On se dit, de toute façon, sans DRS, on ne peut pas dépasser. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? La réponse est non. Même sur un tracé où, j'allais dire, au contraire, ça démontre l'inefficacité du système. Comme tu le disais, Lucas, sur un tracé comme celui de l'Albert Park, qui est un circuit provisoire, il faut le rappeler, où il est difficile de dépasser, avec le DRS, on devrait y parvenir. Or, les pilotes n'y parviennent toujours pas. Donc, il y a un vrai problème de conception aéro de F1. Je crois que le souci, il est là.
Alexander Wurz, qui est un ancien pilote de F1.
Et le président du GPDA.
Exactement, et deux fois vainqueur des 24 heures, a dit que pour lui, la solution, c'est de réduire l'influence des ailerons avant en Formule 1.
Il a parfaitement raison, Alex. De toute façon, on peut lui faire confiance avec la carrière que tu viens de rappeler, l'expérience qu'il a. Je crois que les pilotes, ils font avec ce qu'ils ont. Ça, on va pas reparler cette fois-ci du halo. C'est pas, on en a déjà assez parlé. Puis bon, le sujet reviendra évidemment sur la table. Mais on va parler de ça. C'est le package aéro qui n'est pas bon. Et le problème de la F1, c'est de pas assez se remettre en cause. Alors, on sait qu'il y a tout un tas de compétences au plus haut niveau. Ross Brawn, notamment, qui a été engagé donc par Liberty Media, qui est l'homme de la technique, l'homme qui pense le futur règlement, mais pour 2021, je crois qu'il faut réagir beaucoup plus vite que ça en Formule 1, et je crois que là aussi, cet empilage aérodynamique que tu évoquais, dont Patrick parlait tout à l'heure, qui est, disons-le, ridicule. Et puis, le problème, c'est comme les pilotes en course évoluent à 7, 8, voire 10 secondes en début de course des performances potentielles des monoplaces, quand il y a un petit accrochage, on voit évidemment des aiguilles de carbone qui volent un peu partout, ça occasionne des crevaisons. Bref, on se demande pourquoi on n'apure pas la monoplace pour lui redonner la fluidité qu'on lui connaissait. Alors évidemment, faut jamais dire c'était mieux avant, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais
le DRS a fonctionné en 2011 quand ils l'ont instauré. Pendant 3-4 ans, ça a bien fonctionné. Le problème, c'est que le DRS n'a pas évolué et que les monoplaces, elles, ont évolué avec de plus en plus d'appui aérodynamique, ce qui annihile un petit peu l'effet du DRS.
Mais tu as parfaitement raison de le dire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une idée, surtout dans un monde qui évolue très vite comme la Formule 1, un monde technologique poussé à l'extrême, c'est pas parce qu'une solution a fonctionné tant mieux pendant 2 ou 3 saisons qu'elle peut fonctionner indéfiniment. Déjà, ça c'est la première chose. Moi je pense que c'est la remise en question totale, je dis bien totale, de l'aérodynamique des Formule 1. C'est bien là-dessus qu'on travaille d'ailleurs. Tout le monde en convient, moi c'est sur les délai que je critique. Je dis qu'il faut pas attendre 2021 pour avoir peut-être enfin des pilotes qui puissent se dépasser. Je donne l'exemple de l'IndyCar, encore une fois, aux États-Unis, où là, on a revu totalement le package aéro dans le bon sens. Alors, Sébastien Bourdais me le disait encore il y a quelques jours. Les monoplaces, il a gagné, tu le sais, à Saint-Pétersbourg, la première épreuve. Moi, j'ai vu ses essais, effectivement, à Sebring. J'étais avec lui pour les essais privés, etc. Je peux te dire qu'il savait plus où il mettait les pieds, parce que justement, il disait, oula, les monoplaces très difficiles à contrôler, mais c'est ça que les pilotes aiment au final. Et puis le talent, il s'exerce comme ça. Si la voiture est soudée au sol et si toi et moi on fait les mêmes temps que Lewis Hamilton, ça va pas aller du tout.
Bon, le DRS, on l'a compris, ça fonctionne moins bien. On espère qu'il y aura un événement qui va fonctionner. C'est le retour du Grand Prix de France après 10 ans d'absence. On le rappelle, ce sera le week-end du 24 juin. On vivra au rythme de la course sur RMC, mais il commencera un peu plus tôt en réalité le Grand Prix, puisqu'il y aura un show à Marseille,
oui,
un petit peu à la manière de ce qu'avait fait Londres en marge du Grand Prix de Silverstone l'année dernière, un grand show où les fans pourront assister à des démonstrations de pilotes de très très près.
J'espère que Lewis Hamilton sera là.
Il n'était pas là.
C'était le seul pilote parmi les 20 qui n'était pas là. Il avait pris un petit week-end à lui, un petit break dans les îles grecques en bonne compagnie, disait-on, avec son jet. Mais bon, c'est vrai que ça avait été mal perçu d'abord parce que c'était en Grande-Bretagne, c'était à Londres, et puis à Marseille, il faut espérer évidemment les pilotes français ou assimilés seront là, parce qu'effectivement, ça c'est une évidence. Et puis c'est une très bonne chose, évidemment, que la Formule 1 aille un peu vers son public. Là, on peut encourager les initiatives de Liberty Media, c'est une évidence. De toute façon, il faut rapprocher à nouveau la F1 qui s'était tellement éloignée de son public. Donc tout ce qui pourra effectivement permettre à un gamin, comme on le dit, c'est la lumière dans l'œil du gamin. On s'est tous intéressés au sport mécanique comme ça.
Lewis Hamilton, donc tu disais qu'il a fait une petite sortie cette semaine et qu'il a dit qu'il allait retirer la peinture de son casque, puisque c'était trop lourd et que de toute façon avoir un casque reconnaissable ça ne servait plus à rien aujourd'hui avec le halo. Donc voilà Milton qui s'exprime toujours autant que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs.
Moi j'aime bien parce qu'au moins il l'ouvre, il envoie, écoute, il dit ce qu'il pense. On les voit plus les pilotes maintenant avec le halo, ça y est, si tu me lances là-dessus là, on va terminer l'émission comme ça. Non mais on les voit plus, on les voit moins bien nous-mêmes, et on l'a dit en ouverture d'ailleurs du premier Grand Prix, on a beaucoup de mal à les reconnaître, les spectateurs aussi, enfin tout le monde. Donc maintenant il faut que le halo devienne, et c'est pas une idée originale non plus, elle a déjà été lancée par plusieurs, d'abord un élément reconnaissable, qu'au moins on sache qui se cache derrière ce grillage, derrière ces grilles, derrière ces barreaux, je vais oser le dire, voilà. Donc qui est à l'intérieur? Alors pourquoi pas le halo décoré comme le casque du pilote? Enfin maintenant il va falloir qu'il se trimballe avec la tongue sur la tête, ça va être moins rigolo, mais bon, on est là pour faire de l'humour aussi.
Il y a une autre discipline où les pilotes sont très très reconnaissables, c'est bien la MotoGP, que ce soit avec les numéros qui sont décorés ou même avec les casques et les combinaisons. On a appris il y a quelques semaines que Tech 3 quitterait Yamaha en fin de saison après 20 ans. Quittera donc Yamaha en fin de saison. C'était la 20e année de partenariat pour passer sous pavillon autrichien. Ce sera avec KTM. Yamaha va donc perdre une écurie importante. Et peut-être même Johann Zarco.
Alors, écurie satellite, ça aussi, c'est un système dont peut-être la Formule 1 devrait s'inspirer. Comme ça, au moins, c'est clair. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les écuries officielles, en l'occurrence Yamaha. Et puis, il y a cette équipe satellite montée par Hervé Poncharal, que je connais. Je peux même te dire, j'ai fait des courses de moto avec lui il y a quelques années, on va dire. Donc, je le connais par cœur, Hervé. Et j'imagine le déchirement, il l'a dit, que ça a été pour lui de quitter une marque comme Yamaha, avec qu'il a accompagné. Ils se sont mutuellement accompagnés sur la voie du succès. Et maintenant qu'on a une pépite, une perle comme Johann Zarco, c'est vrai que ça a dû être déchirant. Mais comme il l'a dit aussi, Hervé, il a reçu une proposition de KTM. On imagine bien qu'elle est technique, puisque KTM est encore loin des performances pour le moment. On l'évoquait avec Claude Michel.
Il a même dit qu'il ne pouvait pas refuser cette offre. C'était impossible de refuser.
C'était impossible parce que je pense qu'on l'a fait on va pas dire un pont d'or, parce que c'est toujours artificiel. Je connais Hervé, c'est pas pour s'acheter un yacht en face de son domaine. Non, mais je veux dire, dans le sud là-bas, mais il va travailler dans des très bonnes conditions. C'est vrai qu'il tirait un petit peu le diable par la queue, puisque c'est une écurie privée, même si il est patron aussi des teams de Grand Prix. Enfin, c'est lui qui représente les écuries moto. Mais je pense que c'est une décision courageuse, parce que en prenant KTM là où il va aider également l'équipe d'usine, probablement avec l'expérience de toute son équipe technique. Et puis il va savoir au niveau des pilotes, est-ce qu'il parviendra à conserver Zarco. Ça, c'est une vraie question, c'est un vrai point d'interrogation.
Mais est-ce que Yamaha doit tout simplement se séparer de Maverick Vinales pour faire venir Johann Zarco? On sait qu'il a été en difficulté l'année dernière, que pour l'instant il est derrière Rossi. On sait que Rossi a re-signé. De toute façon, Rossi est indéboulonnable par définition. Donc voilà, est-ce que Yamaha doit faire venir Zarco, parce que au risque de voir justement Zarco partir peut-être chez Honda à la place de Dani Pedrosa, ou peut-être même chez Ducati?
Écoute, c'est une très bonne question. Lynn Jarvis, le patron de Yamaha en compétition, a dit qu'ils allaient peut-être envisager d'aligner une troisième moto d'usine pour Johann Zarco. Donc c'est une vraie question. Est-ce qu'ils vont aller jusque là? Mais alors pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Parce que on sait depuis l'an dernier que Zarco est allez, je vais me lancer. D'abord un vainqueur de Grand Prix en potentiel, mais peut-être un champion du monde potentiel. Donc il y avait beaucoup à miser sur lui. Alors après, effectivement, condamner un pilote, c'est vrai, comme Vinales qui ne donne pas. En début de saison, rappelle-toi l'an dernier, il était vraiment bon. Puis après il s'est un petit peu écroulé. Je sais pas trop pourquoi, parce que là aussi un côté psychologique. Est-ce que la moto ne répond pas? Même Rossi a eu du mal à un moment.
Oui,
avec
mais Vinales était l'ultra favori de la saison l'année dernière, on le rappelle. Il avait complètement dominé les essais, et puis sur les premiers Grands Prix, il était là, et après ça a été un petit peu la descente aux enfers pour l'Espagnol.
Tu sais, c'est pareil, il y a une question de feeling qui est extrêmement importante. Les pneumatiques, par exemple, on en parlait avec Claude Michi tout à l'heure pour Johann Zarco. Les pneumatiques, c'est une question de liaison au sol. C'est par là que tout passe, déjà en Formule 1, mais à moto encore pire. C'est la question de la confiance. Est-ce que là, Vinales ne trouve pas la monte ou les réglages aussi qui lui conviennent? En tout cas, force est de constater que Rossi fait beaucoup mieux avec la même machine à 39 ans, et Rossi qui a re-signé pour 2 ans, comme Vinales, justement, pour répondre à la question.
Il y aura du WRC, ce sera la semaine prochaine, avec le week-end prochain, ça commencera même dès le vendredi avec le Tour de Corse, avec un pilote de prestige qui sera là, Sébastien Loeb. C'est sa deuxième pige sur 3. Peut-être plus, on verra, parce que Pierre Budard a dit qu'il y aurait d'éventuelles autres possibilités. Mais après, ses performances au Rallye du Mexique, On rappelle, hein, une cinquième place, alors qu'il était quasiment en tête.
Il était en tête à un moment.
Il a crevé. Donc voilà, ce qui aurait dû anéantir ses chances de victoire. On peut carrément attendre qu'il s'immisce dans le duel entre Sébastien Ogier et Thierry Neuville.
Écoute, c'est bien ce que Citroën attend de lui. On a compris que chez Citroën, non pas qu'on ait déjà dit qu'on sera pas champion du monde, mais bon, ça va être compliqué, hein. On rappelle les positions. Ogier, leader, avec 2 victoires pour le moment sur les 3 rallyes disputés. 56 points. Thierry Neuville, 2e, 52 points. D'ailleurs, faut signaler que Neuville s'en est fait une belle, une grosse, avec Nicolas Gilles-Soul, puisqu'ils sont sortis très violemment en s'entraînant avant le Tour de Corse, près de Linguiseta, sur la côte est de l'île de Beauté. Ça a été chaud, hein.
Bah, ils sont tout simplement tombés d'un pont. Ouais. Suninen était sorti à Monte Carlo, un peu de la même manière. Lui, il avait loupé le pont. Et là, Thierry Neuville, qui a quand même sacrément endommagé sa monoplace. Heureusement,
pilote, ils sont deux. Parce que Nicolas Gilles-Soul, il a dû avoir une chaque émotion.
Heureusement, les pilotes n'ont rien, mais en effet, ouais, c'est peut-être que ça peut même entamer sa confiance, hein, avant le rallye de Corse.
Et ta question était bonne. Est-ce que le peut troubler? Bah oui, évidemment, c'est le poil à gratter, hein. Il n'est pas le seul, parce qu'Andreas Mikkelsen, on va pas le condamner non plus, qui a été un très beau transfert. Il est quand même 3e du championnat avec 35 points. Chris Mick, quand même, le pilote régulier de cette équipe Citroën, même si le joker, Loeb, évidemment, écrase un peu tout, hein, quand on est 9 fois champion du monde, effectivement, des rallyes. Alors c'est vrai que pour le moment, Ogier n'en est qu'à 5, mais bon, il est peut-être sur la piste de sa 6e victoire. Et puis, il y a un élément très important, et tu le sais, Lucas, c'est le revêtement. Et là, il n'y aura pas de poussière, il n'y aura pas à balayer la piste, parce que c'est du bon vieux goudron corse. Enfin, vieux,
tout
c'est pas.
Tout le monde
pas,
sera à égalité, normalement.
Voilà. Normalement, tout le monde part exactement avec les mêmes armes. Voilà, pour répondre à la question. Donc, oui, il va troubler le jeu. Merci, Lucas, en tout cas, d'avoir été avec moi dans cette émission Motor. C'est toujours un plaisir de vous parler de sport mécanique. Maintenant, c'est le non moins sémillant Arnaud Souk qui va reprendre le volant, le guidon, tout ce que vous voulez, et pour Intégral Sport. Salut Arnaud.
Alors, j'ai pas de volant, mais j'ai un guidon cet après-midi. J'ai un guidon de cyclisme. Ah, deuxième voilà. Monument de la saison, le Tour des Flandres. Ça va être absolument magnifique. 127 km encore à parcourir jusqu'à l'arrivée à Audenarde, avec les coureurs qui vont tout simplement rentrer dans le dur. Il y a 18 monts à franchir pour le peloton des favoris en pagaille. On le verra peut-être, un Français, Arnaud Démarre, pourquoi pas, qu'il lève les bras à l'arrivée. Il y a également de la Coupe d'Europe de rugby, quart de finale cet après-midi après les défaites de Toulon et de La Rochelle. Cette fois-ci, on est sûr qu'un club français va se qualifier, puisque Clermont et le Racing s'affrontent dans une minute désormais. Ça sera le coup d'envoi, une rencontre que vous allez vivre sur RMC avec Julien Théier en direct du Michelin et Richard Pouljens. Et puis de la Ligue 1 également au programme, Guingamp-Bordeaux, de la Première Ligue, bref, plein de choses et de belles choses. Jean-Luc,
c'est tant mieux, et on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Bahreïn, vous savez, la Formule 1. Merci à Pierre Amiche à la production, merci à tous, on se retrouve très bientôt sur l'antenne de RMC.